Il y a des chants qui percutent plus que d'autres, qui vous touchent plus que d'autres. Hein. Ça aussi dépend de ce que vous vivez personnellement. Il y a quelquefois des cantiques, des chants qui en rejoignent dans ce que vous vivez. Et ce chant que nous venons de chanter est un chant qui particulièrement me touche. Connaître Christ, tout un programme, que chacune de nos vies, aussi longue soit-elle, ne réussira jamais à faire le tour de la personne de Christ, et je ne suis même pas sûr que l'éternité suffira pour connaître le Christ tant qu'il est infini, puisqu'il est Dieu. Tant il dépasse toute compréhension, toute imagination. Son amour est insondable, sa personne aussi. Et puis, il me rejoint parce que je me dis si je peux connaître Christ, c'est parce qu'il me connaît. Et c'est qu'il me connaît bien plus que je me connais moi-même. Vous avez déjà vu rencontrer des personnes qui vous regardent dans les yeux. Et vous avez l'impression qu'ils vous auscultent, vous scannent jusqu'au fond de vos chaussettes. C'est quelquefois déstabilisant, n'est-ce pas? On a l'impression qu'ils savent tout de nous, qu'ils vont scruter les moindres recoins de notre vie. Ça peut paraître quelquefois insécurisant. Ça pourrait être la même chose pour le Christ qui nous connaît dans les moindres détails, qui connaît notre passé. Aïe, aïe, aïe. Ce passé que l'on traîne avec nous, qui plombe parfois bien des moments de notre vie quand nous ressassons un peu ce passé, qui connaît notre présent, qui connaît notre futur. Il sait tout de nous. Sartre qualifiait Dieu de voyeur. Et cette connaissance de Jésus est notre plus sûre sécurité. Elle est notre paix la plus absolue. Pourquoi? Tout simplement parce que nous connaissons parfaitement, absolument, dans les moindres détails, dans les moindres aspérité de notre vie, il nous aime d'un amour absolu. Et il l'a montré. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Je n'ai rien à lui cacher. Je n'ai rien à dissimuler. Je peux venir avec lui, devant lui comme je suis, tel que je suis, sans rien craindre de tout ce qui assombrit notre vie, de toutes les rides intérieures de l'âme, de mon âme. Il m'aime. Un chant dit ça. Il m'aime. C'est sur ce regard que Christ porte sur nous que j'aimerais m'arrêter ce matin. Ce regard, il le porte sur un homme comme il le porte sur chacun d'entre nous et ce regard qu'il porte sur Pierre, que j'aimerais m'arrêter ce matin, sur ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Le verset est très court sur lequel j'aimerais m'arrêter. On n'a pas besoin de faire un grand effort de mémoire pour nous souvenir du texte de ce matin, quand on vous posera la question sur quel texte Nordine a prêché, vous pourrez vaillamment, avec fierté, vous en souvenir. Jean 1, Jésus choisit ses disciples. Et il arrive vers Pierre. Verset 42. Il le conduisit auprès de Jésus et Jésus le regarda attentivement et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Rien de plus court, n'est-ce pas? 1 Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 42. Jésus le regarda attentivement. Chacun a ses miroirs. Ce matin, vous êtes passé devant le miroir. Probablement, pour regarder si aucune mèche était rebelle, si vos lunettes étaient bien ajustées, si votre veste était bien mise, si votre cravate, après il n'y a pas beaucoup de cravate hein, devant moi là, était bien ajustée. Enfin bref, si vous étiez présentable pour vos frères et sœurs, pour votre famille tout d'abord, vous êtes passé devant le miroir. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut faire son profil. Alors là, il y a des profils très étudiés. Hein, si vous scrollez un peu, puis vous regardez un peu les profils des uns et des autres, il y a quelque chose dans le profil qui dit quelque chose de vous. Et alors, au fur et à mesure que vous évoluez un petit peu dans votre vie, vous changez de profil. Hein, puis vous recevez une information, un tel a changé son profil. Ou suivant l'événement, en fin de compte, que vous avez vécu, vous avez envie de mettre un profil qui correspond à cet événement. Ça vous dit quelque chose ou bien je vous ai perdu hein. Vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux peut-être hein. Il y en a qui disent, mais j'ai déjà vu des profils de certains hein, sur vous êtes maintenant scruté. Alors moi je vous dis, mon profil c'est un olivier. Je n'ai plus autre chose de mes origines. L'huile d'olive. Un miroir que l'on ausculte, on se compare, on vérifie que l'on est bien dans les normes, on interroge surtout le regard des autres. Parce que quand on met un nouveau profil, sur Facebook ou autre chose, qu'est-ce que l'on attend avec impatience? Il m'a pas liké aujourd'hui. C'est la déprime la plus totale quand personne ne répond. Hein? On attend que l'autre réagisse parce que le regard des autres sur soi est essentiel. Il faut bien dire que bien souvent, le regard des autres nous construit. Un regard méprisant est un regard qui abaisse. Et on sait que nos enfants grandissent aussi avec le regard des parents. Ce regard peut être encourageant, ce regard peut être démobilisateur, décourageant. Je suis souvent posé la question à l'égard de mes enfants. Quels souvenirs gardent-ils de notre regard que l'on a porté sur eux. J'ose pas les interroger. Quel sourire gardez-vous du regard que vos parents portaient sur vous? Ma mère a porté sur moi un regard où elle avait mis en fait tous ses espoirs en moi, pour des raisons sur lesquelles je peux m'arrêter. Et je me suis construit personnellement avec le regard de ma mère. Elle voyait en moi le garçon parfait, celui sur lequel elle pouvait compter d'une manière infaillible. Et j'ai grandi avec la peur de l'échec, la peur de la décevoir, ce qui immanquablement est arrivé. Immanquablement est arrivé. C'est vrai que parfois, le regard des autres étant est une épreuve, comme le miroir, parfois pour certains, est un calvaire. Ils ne supportent pas de se regarder. Et quelquefois c'est très sincère, c'est vrai. Et chez les ados, parfois, ils ne se supportent pas. Ils ne supportent pas de « je suis moche », mais ils n'arrêtent pas en fait de faire des selfies. Comme ça, quelques contradictions. Ils auscultent, même s'ils ne peuvent pas se voir, le moindre petit point noir, à peine visible à l'œil nu. Une vraie maladie du regard qui grossit le moindre détail qui ne va pas. D'autres, comme je disais tout à l'heure, cherchent dans le regard des autres un indice sur eux-mêmes. Et tout devient un sujet à interprétation. Ils ne m'aiment pas. Il ne m'a pas souri. Il a l'air content. Il est sombre. Il ne m'a même pas regardé. Que des scénarios sont bâtis. Ainsi, un instant sur un regard. J'ai presque envie de faire une petite digression en disant, est-ce que nous nous regardons quand nous nous saluons? Le regard dit beaucoup de choses sur la qualité de la relation que l'on a aux autres. Combien de fois avons-nous eu l'impression que l'autre nous saluait, mais regardait en même temps par-dessus notre épaule. Je n'ai fait cette expérience-là. Je dis, bon, ce salut-là, c'est vraiment pour la forme. C'est bon, je l'ai vu. Il n'en va pas de même pour Jésus. Le nombre de fois où l'Évangile nous dit il le regarda. Et ici, le texte insiste beaucoup. Il regarda Pierre intensément. Intensément. La première rencontre de Jésus et de Pierre est marquée par le regard que Jésus porte à Pierre. André amena son frère Simon à Jésus. Littéralement, fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, et tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre, rocher. » Simon vient pour découvrir Jésus, et c'est en fait Pierre qui sera découvert. C'est Pierre qui sera réorienté par le regard de Jésus sur lui. S'ouvrir au regard de Jésus et l'intégrer en lui donnant sa juste place déterminera toute la vie, déterminera toute l'identité de Simon qui deviendra Pierre. L'Évangile, vous vous en souvenez, rapporte une autre rencontre où Jésus, comme ici, pose son regard sur quelqu'un, un homme riche.
Il veut sincèrement savoir, cet homme riche, comment recevoir la vie éternelle. Jésus le regarda et l'aima. Marc 10, 21. Pourtant, cet homme repartira tout triste. Il percevra l'amour de Jésus pour lui, mais ne sera pas prêt à faire le chemin que Jésus proposera. Il te manque qu'une chose. Vends ce que tu as et suis-moi. On ne cesse de nous dire, il te manque une chose. Tel modèle de voiture, tel type de vêtement, tel profil de rêve. Et nous nous jaugeons par rapport aux images que nous envoient les spots publicitaires ou les influenceurs, parce qu'on l'a à la page. Mais lorsque c'est Jésus qui nous affirme, il te manque une chose. Lorsque c'est lui qui nous dit, voilà ce que je vise pour toi. Quelle importance accordons-nous à ce que Jésus peut penser ou dire de nous? Quelle importance accordons-nous à ce que Jésus peut penser ou dire de nous? On peut passer à côté du regard de Jésus et repartir tout triste. Ou on peut, comme Simon, devenu Pierre, en étant totalement transformé. Tu es, c'est le premier point. Ce regard de Jésus sur Pierre est large, il embrasse le présent. Tu es Simon. Tu es Simon, le passé ou l'histoire, le fils de Jean. Et puis l'avenir, désormais tu seras Pierre, rocher. Mais quel coup de miroir par ces quelques mots. Quel coup de miroir par ces quelques mots. Et Jésus casse ici la chronologie. Il ne dit pas, ah voilà le fils de Jean, Simon, que j'appellerai Pierre. Le pauvre Simon. Le pauvre Simon se serait alors trouvé comme pris en sandwich, étouffé entre son père et Jésus. Il ne serait qu'un nom, sans grande consistance entre les deux. Et Jésus, en regardant ce futur disciple, tient à lui dire, tu es Simon. Tu es Simon. Il s'adresse à lui comme une personne unique. C'est bien lui, Simon, qui l'accueille, et non le fils de son père. Et Jésus tient à lui dire cela d'emblée. C'est toi que j'accueille, personnellement. Parce que Jésus s'adresse à nous en nous disant « tu ». C'est un véritable « tu » qu'il nous dit. Son intérêt pour nous n'est pas pour le fils de, ou la fille de, pour le frère ou la sœur de. Terrible, hein, l'héritage. J'ai raconté combien mes enfants ont souffert de ça. Combien si souvent ils ont été accueillis par le fils du pasteur. Héritage lourd à porter. Héritage lourd à porter. Et Jésus tient à ce que Pierre sache qu'il est accueilli pour lui-même, personnellement. Et c'est pour nous personnellement qu'il s'arrête. Jésus ne s'exclame pas non plus. Ah, voici celui que je vois déjà comme Pierre, comme rocher. Comme si la seule valeur de Simon était le projet formé sur lui. Ça aussi, c'est terriblement difficile. Car ça inscrirait Simon sous le signe de la performance. De la performance. Il ne deviendrait acceptable qu'en s'approchant du but fixé par Jésus.
Je ne vais pas m'empêcher de faire un parallèle avec nos enfants. On n'a jamais été déçu par nos enfants.
Nous avons nourri des projets.
Tu seras docteur, mon fils. Tu seras avocat, mon fils. À 3 ans, l'enfant décide. Moi, je voudrais monter sur le camion des poubelles. Ah non, pas ça, mon fils. Je parle de mon fils parce que c'est volontaire. C'est souvent sur les garçons qu'on projette un peu toutes nos frustrations.
Quelle tyrannie! Si Jésus ne nous aimait qu'à cause du projet qu'il forme sur nous, quel drame si Pierre, dans sa marche avec Jésus, ne s'était senti accepté que comme rocher! Pauvre Pierre, lui qui était si fluctuant, si instable!
Certains diraient bipolaire. Je n'irai pas jusque-là, rassurez-vous.
Mais si instable, quel réconfort pour nous.
Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de la méditation là où je suis.
Quel réconfort de se souvenir que Jésus nous accueille tel que nous sommes. Tu es Simon.
Tu es Jonathan, tu es Emmanuel,
tu es André. C'est ça que j'accueille. Là, maintenant.
Ça permet à Simon d'être lui-même,
de se tromper comme Simon se trompe parfois.
D'être soupolais, comme Simon l'est parfois.
D'avoir des élans non concrétisés comme les a Simon.
Mais avec tout cela, de se sentir aimé.
De se savoir aimé en tant que Simon. D'être accompagné comme Simon, pris par la main pour être conduit peu à peu vers quelque chose de plus solide. Vers quelque chose de plus constant. Jésus vise plus loin que le présent, mais avec ce que nous sommes. Il sait très bien la distance que sépare l'être constant de Pierre le roc. Dans le désormais tu seras, qui suit la lucidité, tu es Simon, il y a à n'en pas douter la parole d'un engagement aux côtés de Simon. Mais quel encouragement, mes frères et sœurs, que cette parole d'espérance, prononcée en toute connaissance de cause, on est à l'opposé du constat négatif qui coupe l'élan, mon pauvre Simon. Qu'est-ce que je viens faire de toi? Ah! T'as vu où t'en es, là? C'est mort. C'est mort. La parole de Jésus ouvre des perspectives. Tu es Simon, et avec ce que tu es, on va avancer. On va avancer. Et c'est ici le regard que Dieu pose sur chacun de nous. Un regard qui nous permet à notre tour de dire « Je suis !» et de le dire autrement, plus tranquillement. plus sereinement. Et cette parole est personnelle. Tu es Simon, fils de Jean. Autrement dit, ne passe pas ton temps en rêverie stérile ou en dépit douloureux à désirer les outils qui sont dans les mains des autres. Regarde ceux qui sont entre tes mains. Prends-les. Prends-les. On va travailler ensemble. Car c'est avec toi que je veux faire quelque chose de valable et de beau. Jésus nous dit « toi ». Et nous souvent nous répondons « et lui ». Et lui. Un jour, alors que Jésus parlait à Pierre de ce qu'il voulait faire de lui, l'apôtre a eu ce même mouvement. Et lui, que lui arrivera-t-il? Qu'est-ce que répond Jésus? Mets-toi de tes oignons. Que t'importe? Toi, suis-moi. Suis-moi. Lorsque Jésus nous dit ainsi, toi, il ne nous réduit pas pour autant à l'instant d'aujourd'hui. Il prend en compte tout notre cheminement, tout ce qui nous a conduit jusqu'ici. C'est pourquoi il ajoute ici, tu es Simon, le fils de Jean. Tu étais. La Bible n'oublie jamais que nous sommes reliés. Jésus lui-même est présenté à deux reprises dans les évangiles, dans la chaîne d'une généalogie. Dans son humanité, il était formé par son père Joseph et sa mère Marie. Et il y a la source d'expériences heureuses, d'expériences structurantes, un enracinement où nous avons tant reçu. Mais aussi pour certains, il faut bien le dire, source d'épreuves. Source d'épreuves. Et des épreuves à porter, de carences qui laissent des traces. Et Jésus n'élude pas cette réalité. Et dans un coup de miroir sur Simon, il l'invite aussi à intégrer qu'il est le fils de Jean. Là encore, inutile de rêver à la famille idéale. J'ai regardé dans toute la Bible, j'ai scruté toutes les familles. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Ah si, j'en ai trouvé. Si. Dans certains livres. Mais qui n'ont aucune référence à la Bible. Une famille idéale qui nous aurait apporté l'idéal. Dans ce domaine comme dans d'autres, c'est avec les moyens limités que s'élaborent les constructions. Tu es Simon, fils de. Avoir eu un milieu familial équilibré est un capital immense qui est donné et qui est donné pour la vie. Il vaut la peine d'y penser en tant que parent. Et d'exprimer un moment ou un autre aussi pour les parents qui nous ont été donnés un merci à qui de droit. Mais lorsque les carences sont trop importantes et lorsqu'être le fils d'un ou la fille d'un implique des blessures que l'on porte, comme des plaies qui n'ont jamais été cicatrisées, il est précieux de savoir que Jésus, que pour Jésus, ces blessures ne représentent pas un obstacle pour s'intéresser à nous. Nous appeler, nous aimer, nous accompagner, nous faire grandir. Jésus intègre pleinement cette composante de notre personnalité dans ce qu'il veut faire de nous, dans ce qu'il veut faire avec nous. Mais Jésus rappelle à Simon qu'il est d'abord Simon, avant d'être fils de Jean. Et le tu qu'il lui adresse est plein d'espérance et de responsabilité. Car il y aurait un danger à se complaire dans son identité de fils de. soit pour s'y installer douillettement, soit pour faire de tous les manques une forme d'ornière déstabilisante dans laquelle nous nous enfermons, refusant par avance d'accomplir ce que nous pouvons accomplir. De toute façon, je suis trop marqué. Il y a eu trop de loupés dans ma vie. Il y a eu trop de loupés dans mon éducation.
Autour d'une table après, une agape ici, nous avons partagé avec quelques-uns un peu les ambiances familiales, les marques profondes. Et puis en souriant un peu, nous étions des couples et nous sommes dit pourquoi nous étions mariés, à quel moment nous étions mariés. Et nous avons un peu plaisanté en disant, ben voilà, on comprend pourquoi on s'est mariés si tôt. En parenthèse, pour échapper au milieu familial. Alors rassurez-vous, il y avait d'autres raisons quand même. Hein. Ceci est bien, et après, même si elle n'existait pas forcément.
C'est à Simon que Jésus a dit « tu » un peu plus tard. Il lui demandera de quitter son père pour le suivre. Simon est pour une part le fils de Jean, mais il n'est pas seulement le fils de Jean. Et ce coup de miroir nous rappelle que nous sommes plus que ce que l'on a fait de nous. On est plus que ce que l'on a fait de nous. Et que dans toute situation, il y a ce que nous pouvons faire et être avec l'aide de Dieu et sa présence à nos côtés. Vous connaissez tous cette phrase, si je ne suis pas responsable de la tête que j'ai, je suis responsable de la tête que je fais. Je ne me réduis pas à une série de déterminations. Tu es tel. Mais Jésus continue et affirme, et ce sera mon dernier point, affirme à Simon, désormais tu seras. Et il apparaît ici comme celui qui ouvre un avenir et donne des perspectives. Simon a de vraies limites. Jésus, qui ne les ignore pas, préfère orienter le miroir sur le potentiel qu'il voit en Pierre. Et non seulement le souligne-t-il verbalement, mais tout au long de sa marche avec Pierre, il encouragera Pierre. Il relèvera. Il utilisera ce qu'il y a de meilleur en lui. Pierre fera des erreurs. Pierre tombera, Pierre trahira. Souvent, Pierre sera à côté de ce qu'il devrait être. Il n'est pas le seul, hein. Personnellement, je suis avec lui. Mais il y aura chez lui un amour pour Jésus, de vraie qualité, de vraie potentialité d'engagement. Même au moment de sa trahison. Il aime Jésus. Dans la cour, il croise, tout de suite après la trahison, il croise Jésus dans la cour. Du Sanhédrin. Quelle est la réaction de Pierre? Le texte nous dit Pierre pleura. Pleura. C'est une attitude constante de Jésus dans ses relations avec nous. Il veut mettre en nous le potentiel propre de chacun. Et ce potentiel n'est pas le même pour tous. Pierre n'est ni Jean, ni André, ni Thomas, mais pour chacun avec ce qu'il est, Jésus a un projet, un bon, un vrai projet. Désormais, tu seras appelé Pierre, le roc. Nous avons à découvrir ce que cela peut signifier pour nous. Mais dans la marche avec Jésus, nos limites peuvent dire autre chose que des barrières. Tu ne parles pas bien, tu n'as pas cette facilité d'allocution. Ne serait-ce pas le signe que tu dois surtout écouter. Tu es timide?
Ne dois-tu pas davantage accueillir plutôt que de t'imposer et entraîner?
Tu n'es pas intellectuel?
N'es-tu pas désigné pour une tâche concrète?
Il est possible de faire face à ses limites sans être cassé,
car une certitude demeure. Le Seigneur préfère toujours miser sur notre potentiel.
Il ne casse pas le roseau fragile. Il n'éteint pas la mèche toute fine. Au contraire, il souffle, il redresse, il voit plus loin.
N'ayons qu'un seul désir, être pleinement, sans rature, celle ou celle que Dieu désire que nous soyons. En ayant confiance dans son regard et dans ses plans pour nous. Je serai. L'écart est immense entre Pierre le roc et Simon le fils de Jean. Pendant tout un temps, Simon sera beaucoup plus du côté de Simon l'instable que de Pierre le roc. D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus appelle toujours Pierre par son nom de Simon. Il assume très bien tout ce que Pierre n'est pas encore. Mais si Jésus peut ainsi affirmer avec force « Désormais tu seras Pierre le roc », c'est parce que son regard sur Pierre, comme son regard sur nous, n'est pas un simple regard de spectateur, ni de celui qui se contente de fixer les normes, mais le regard de quelqu'un qui va s'engager avec nous dans la voie qu'il nous trace. La grande force du « désormais tu seras », c'est le « je suis avec vous tous les jours » de Jésus.
Tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais aussi jusqu'à la réalisation du but très personnel qu'il a pour chacun d'entre nous.
Pierre, à la fin de sa vie, rendra le témoignage éloquent. Il dira ceci dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. » Vous sentez limité. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et l'homme qui parle, Pierre, est pleinement notre frère en humanité. Amen. Je vous invite simplement à un temps de recueillement, de silence, de prière intérieure. Quelle paix notre Dieu, notre Père, de nous savoir regarder comme tu nous regardes, de nous savoir connus par toi de manière totale, parfaite, complète, et de nous aimer totalement, absolument. Quelle paix, quel repos. Ton regard, Seigneur, nous attire, il nous aimante, parce que ton amour est si grand, si reposant, que nous ne pouvons, Seigneur, que venir à toi, qu'être attirés par toi. Nous voulons, Seigneur, nous ouvrir à tes projets,
au projet que tu as pour chacun d'entre nous. Rends-nous disponibles. Que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux pour nous, à ce que tu veux faire de nous. Merci pour ton regard si bienveillant, si accueillant. Que nous puissions avec confiance mettre notre main dans la tienne et nous laisser entraîner sur le chemin que tu ouvres pour nous. Avec la tranquillité que le but que tu as fixé est parfait, pleinement sage, et qu'il contribue à notre perfection. Nous voulons nous aussi, Seigneur, nous imprégner de ton regard pour regarder les autres, ceux qui nous entourent. Garde-nous, Seigneur, d'un regard qui écrase, d'un regard qui juge, d'un regard qui pointe nos manquements, nos faiblesses, pour mieux nous dominer, pour mieux dominer. Seigneur, aide-nous à nous imprégner de ton regard, un regard qui accueille, un regard qui ne réduit pas l'autre à ce qu'il est aujourd'hui, mais aussi un regard qui voit tout le potentiel que tu peux toi-même développer en lui. Aide-nous, Seigneur, à avoir un regard qui aime, un regard qui encourage. Seigneur, pour ça, nous avons besoin que tu œuvres en nous, que ton esprit façonne en nous ton image, ton empreinte. Seigneur, viens faire ton œuvre dans ma vie, dans mon cœur, dans mon regard. Nous te le demandons.